Il n'y a pas tant de métiers que ça, dont le nom est aussi celui d'un film d'horreur. Le Dentiste, sorti en 1996, m'avait terrifié quand j'étais petit, et puis comme beaucoup d'entre nous, d'autres dentistes m'ont fait peur, mais dans la vraie vie cette fois. Et finalement, j'ai trouvé ma dentiste, celle qui ne fait pas peur et qui fait pas mal. J'ai passé des heures dans son fauteuil à répondre « alors qu'elle avait les deux mains dans ma bouche. Et aujourd'hui, je suis content et ému de la recevoir dans C'est pas un métier, le docteur Fabienne. Voilà, je vous dirai pas son nom de famille, parce que la déontologie veut qu'on ne fasse pas de publicité à un médecin, c'est tout à fait normal. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci encore d'être ici. Alors, pour vous présenter quand même, vous êtes présidente de l'URPS des chirurgiens dentistes d'Île-de-France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est ?
Alors, l'URPS, c'est l'Union régionale pour les professionnels de santé. C'est une structure de type associatif qui a été créée par l'État en 2009. On a un rôle de représentation des dentistes, de chirurgiens dentistes libéraux uniquement. On doit contrôler et appliquer les lois et les politiques de santé. On s'occupe aussi de former les dentistes, de les accompagner et on mène certaines actions pour les chirurgiens dentistes libéraux et notamment on a mené des actions pendant la période Covid.
D'accord, donc en plus vous êtes impliqué dans plein de choses, ça va être passionnant. Avec moi aussi Benoît Lachand, notre expert de la formation et des métiers.
Bonjour Guillaume.
Grand amateur du dentiste. Hein, si vous
j'ai passé plusieurs centaines d'heures effectivement dans des fauteuils de dentiste.
Eh bien c'est parti. Alors c'est la toute première fois qu'on reçoit un médecin dans C'est pas un métier. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur le cursus global et sur, de manière générale, ce qui transforme un lycéen en dentiste ?
Alors, ce qui transforme un lycéen en dentiste, en tout cas pour ma part, c'est, je pense que ça date de avant le lycée. C'est-à-dire que je pense que depuis toujours, j'ai voulu soigner les gens de façon très générale. C'est-à-dire que, étant donné que j'ai pas du tout de famille dans le milieu médical, je savais pas vraiment ce que c'était un médecin, un chirurgien, un dentiste. Donc, j'avais toujours eu cette volonté de soigner les gens. Évidemment, j'avais un profil très scientifique. Et au lycée, je me suis dit, bah, tiens, je vais tenter le concours de médecine, voir un petit peu ce que je peux en faire, ce à quoi ça va m'emmener, sachant que c'est un concours qui est extrêmement difficile. Donc, je n'étais pas sûre de l'avoir, mais j'étais très, très ouverte sur les différents métiers. Et je m'étais dit, bah, si je rate, je pourrais être aussi sage-femme ou faire autre chose, en fait, dans le milieu du soin. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un concours unique. Il y a plusieurs façons d'arriver à faire des carrières professionnelles médicales.
Vous avez précisé que vous n'aviez pas de parents médecins ?
Non, pas du tout.
C'est une légende, ça, ou c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui ont des parents médecins ? C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai entendu. Est-ce que c'est vrai ?
Alors, c'était très vrai il y a quelques décennies, forcément, surtout avant mai 68, je pense. Aujourd'hui, ça l'est peut-être, mais comme dans tous les métiers. C'est-à-dire que je pense que quand on est jeune, on va peut-être s'orienter plus vers des choses qu'on connaît parce que ça nous rassure et qu'on a moins la vision de ce qui existe autour de nous. Donc forcément, peut-être que les enfants de médecins sont plus attirés par ce métier-là parce qu'ils le connaissent, tout simplement. Mais au-delà de ça, moi, mes enfants, pour l'instant, ne sont pas du tout attirés par des carrières médicales.
Bon, on fera un petit point sur vos enfants tout à l'heure. Vous parliez d'un cursus très difficile.
Oui.
Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Parce qu'en fait, on n'a jamais reçu de médecin encore dans l'émission. Et comme on parle pas mal des formations aussi, ça m'intéresserait d'avoir un petit point formation, en fait, sur qu'est-ce que c'est faire médecine en France ?
Alors,
à notre époque et aujourd'hui.
Voilà. Alors, à mon époque, c'était un concours de médecine, donc où en plus, quand je l'ai passé, parce que je suis plus toute jeune dans les années 90, le numerus clausus était extrêmement faible, donc la possibilité de réussir le concours était encore plus difficile.
C'est quoi le numerus clausus ?
C'est-à-dire qu'on est limité au nombre de médecins et de dentistes qu'on va prendre chaque année à la fin du concours.
Et donc ça, dans les formations publiques, c'est une rareté, je crois.
Oui, je pense qu'il y a très peu. Il y a aussi les magistrats ou certaines professions comme ça, en fait, où on est limité par le nombre de places. Donc oui, c'était un concours qui était très difficile, mais je crois que moi, je me suis enfermée pendant un an, vraiment, où je ne suis pas sortie du tout. Je crois que j'ai fait un cinéma dans l'année.
C'était quoi le film ?
C'était Philadelphia. D'accord. Je m'en rappellerai tout le temps, avec mes copines qui passaient le concours de pharmacie. On s'est autorisé ça dans l'année.
Et donc, un an de travail pour préparer le concours ?
Oui, que j'ai eu du premier coup, mais c'était plutôt rare. En général, on met plutôt 2 ans à avoir le concours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé parce que ce qui est problématique, ça pose beaucoup de problèmes aujourd'hui pour les étudiants parce que le concours est un petit peu plus injuste. Il y a des oraux qui sont pas tout à fait justes par rapport aux connaissances des étudiants. Et il y a aussi des filières parallèles aujourd'hui pour rejoindre les études médicales. Mais c'est pas forcément plus facile aujourd'hui.
On a parlé effectivement de votre choix d'aller dans une carrière médicale, mais qu'est-ce qui fait qu'on choisit d'être dentiste? C'est pas neutre finalement comme métier et comme spécialité.
Alors oui, tout à fait. Alors moi, pour ma part, j'ai passé le concours de médecine, je trouvais ça très difficile. J'ai évidemment très vite rencontré... Moi, j'ai passé une année super, en fait, en prépa, malgré tout, même le fait que ça soit très difficile. J'ai rencontré plein de gens et qui sont restés encore des amis aujourd'hui. Et certains étaient déjà dans des filières de médecins, de chirurgiens. Et donc, l'année du concours, j'étais pas tellement attirée par le métier de médecin généraliste. Et de savoir qu'après 4 ans, il fallait repasser un concours encore plus difficile pour essayer d'avoir hypothétiquement une spécialité qu'on choisit plus ou moins, parce que c'est aussi en fonction du classement qu'on choisit ses spécialités. À ce moment-là, j'ai rencontré aussi la faculté dentaire et je trouvais hyper intéressant le métier de dentiste pour plusieurs raisons. Parce que j'aimais la chirurgie et il y avait de la chirurgie. Mais pas de la chirurgie super lourde, c'est-à-dire que les patients vont pas mourir entre mes mains, a priori, normalement.
Mais c'est parce que vous êtes génial, ça.
Voilà. Contrairement à d'autres chirurgiens, on fait du soin, de l'urgence, de la douleur, et ça, c'est quand même assez gratifiant de pouvoir soulager quelqu'un d'une très forte douleur. On peut faire aussi de l'esthétique, on répond à une demande. La bouche, c'est quand même quelque chose qui est passionnant parce que c'est là où on mange, donc c'est là quand même très important. Donc ça concerne toutes les époques de la vie. C'est le sourire, c'est la parole, c'est plein de choses, la bouche. Donc, et j'ai trouvé qu'en fait, dans cette spécialité, je pouvais faire plein de choses en même temps.
Ok, on est allé peut-être un tout petit peu vite pour les jeunes auditeurs qui peuvent nous écouter et qui se posent des questions sur le cursus complet. On sort du lycée, j'imagine, avec un bac S. Pour faire médecine, c'est quand même...
Il n'y a plus de bac S.
Non,
ça n'existe plus. Il y a des spécialités,
Attends, je suis ce vieux qui se trompe de bac de quand j'avais un bac S et qu'on disait le bac B.
C'est bien ça.
Donc, il y a le bac quoi, maintenant?
Maintenant, c'est un bac général avec des spécialités à l'intérieur.
Donc, j'imagine qu'il faut un bac spécialité scientifique. Comme on dit aujourd'hui, ringard ceux qui parlent encore du bac S, pour faire médecine. Mais donc, on sort du bac, on a le bac, qu'est-ce qu'on fait?
Alors moi, je me suis inscrite à la faculté de médecine, je me suis inscrite à la faculté de Bobigny, parce que j'habitais à Argenteuil, en fait, dans la banlieue nord. Et on rentre en faculté, donc où on a des cours en amphi, des énormes cours en amphi, très impressionnants pour un jeune lycéen. Et moi, pour le coup, j'ai pas fait de préparation parallèle, en fait. J'ai juste fait la première année et il y avait en effet une possibilité de faire des prépas parallèles.
En fait, c'est des prépas parallèles que tu fais en même temps que la première année et qui vont te permettre de travailler un peu plus les matières. Et comme c'est un concours qui est extrêmement difficile et qu'on peut passer généralement que 2 fois, pour se donner toutes les chances de son côté, effectivement, certains font des prépas en plus.
Donc, on peut le passer 2 fois et ensuite, c'est ciao.
Oui.
D'accord. C'est anxiogène un peu comme cursus, j'ai l'impression.
C'est un cursus très anxiogène.
Il y a beaucoup de...
Je pense que tous les cursus avec numerus clausus sont très anxiogènes. Hein. J'ai commencé par pharmacie, c'était la même.
Toi, t'as fait pharmacie?
Eh oui.
Ah ouais, dis donc, t'aurais fait un bon pharmacien.
Mmh.
Ok, donc une fois qu'on a le concours, il y a plusieurs années, au début, je crois qu'il y a un tronc commun, ça c'est ce que j'ai toujours entendu, et puis vous vous spécialisez, mais je crois aussi qu'on peut arrêter médecine n'importe quand. Enfin, on peut se faire sortir n'importe quand ou...
Alors, non. En fait, une fois qu'on a fini le concours, à mon époque, on choisissait entre... Ça a encore beaucoup changé aujourd'hui, mais on choisissait entre médecine ou dentaire. Ensuite, on partait à la faculté dentaire, donc on changeait de faculté. La mienne était à Paris, à côté de Saint-Sulpice. Et c'est vrai, encore une fois, à mon époque, qu'on avait des cours en commun avec la médecine. Mais est-ce qu'on pouvait se faire sortir? A priori, non, si on travaillait correctement. Enfin, il n'y avait pas de raison. Le plus dur à passer, c'était quand même de réussir le concours.
D'accord. Peut-être que c'est des abandons ou...
Ah oui, il y a des abandons.
Il y a pas mal d'abandons. Et donc, on choisit médecine ou dentaire. Vous partez en dentaire. Et là, vous commencez votre cursus parce que, voilà, et là, vous nous l'avez dit, on a un petit peu remis les wagons. Super. Donc, maintenant, c'est très clair. Alors moi, j'ai envie de vous poser maintenant des questions un peu plus précises sur le métier de dentiste. J'ai toujours été impressionné par la tech chez les dentistes. Moi, je suis très technophile de manière générale dans ma vie. Et j'ai remarqué que chez les dentistes, il y a beaucoup de technologies. Il y a beaucoup de choses automatisées. Il y a même de la chimie. Chaque fois, il y a des machines. Ensuite, on fabrique des choses. J'ai même l'impression que c'est physique. Bah, il y a des lumières. Ça doit coûter très cher, tout ça.
Ah oui, ça coûte très, très cher. Et ça coûte de plus en plus cher. C'est ça aussi l'intérêt du métier, c'est que ça avance très très vite, la technologie. Il n'y a pas que la technologie, il y a les matériaux aussi, qui moi me passionnent beaucoup. On a fait des progrès énormes en matériaux. Et effectivement, c'est des investissements qui sont très très lourds, mais qui permettent vraiment d'avancer très vite dans le métier et de travailler très différemment de ce qu'on faisait il y a 20 ans, par exemple.
Vous pouvez nous raconter un peu les derniers changements qu'on a eus ces dernières années, éventuellement ce qui arrive ?
Au niveau des matériaux, on a eu des changements quand même très très importants, avec des nouvelles connaissances. On a fait des recherches énormes sur les différentes qualités de céramique, les différentes qualités de matériaux, sur tout ce qu'on pouvait avoir en reconstitution de la dent, ce qui nous permet aujourd'hui de faire beaucoup plus de collage que de couronne, par exemple, et donc de préserver beaucoup plus la dent qu'avant où on faisait systématiquement des couronnes, ce qui abîmait la dent inévitablement. Et après, on a en technologie, on a la 3D dans la radiologie qui a été un bond énorme pour le diagnostic. Ça nous aide énormément. Ça devient quelque chose maintenant qui est complètement indispensable dans certains diagnostics. On a aussi les caméras 3D qui permettent de faire des empreintes et qui évoluent chaque année de plus en plus. Donc, on a quand même beaucoup, beaucoup plus de choses à notre disposition pour travailler de mieux en mieux.
Qui fabrique ces outils ?
Oh bah, ce sont des sociétés privées, etc.
Voilà.
Et dans les matériaux, les Allemands sont très très forts pour l'avancée technologique des matériaux.
Et donc vous, comment vous faites pour vous tenir à jour ? C'est quoi la méthode quand on est un dentiste un peu geek qui a justement envie d'avoir les dernières technologies ? Donc une de mes questions, c'était est-ce que vous êtes plutôt pro-tech ou à l'ancienne ? Mais vous êtes plutôt pro-tech, il y a
oui.
Toujours les nouveautés. Comment est-ce que vous allez évaluer tout ça ? Est-ce que vous avez des formations ? Est-ce qu'on vient vous les présenter ? Est-ce que vous avez un mec qui vient en démarcher chez vous et vous montrer les nouvelles céramiques en vous disant bah « alors ça, c'est 8 fois plus solide ».
Alors oui, évidemment, on a des commerciaux qui viennent nous démarcher, mais je pense que comme tout scientifique, on est très, très, très prudent sur les démarches commerciales. Et puis en général, quand il y a quelque chose de vraiment très nouveau qui arrive sur le marché, je pars toujours du principe qu'il vaut mieux que les autres essayent avant moi et que je l'utilise une fois que tout le monde l'a validé. Mais sinon, en fait, très simplement, on fait des formations par des gens qui sont reconnus par la profession, par des universitaires, qui, eux, ont fait des démarches de recherche clinique et qui vont nous présenter les nouvelles technologies, les matériaux qui ont été validés par les laboratoires de recherche, etc., etc. Donc, on est des scientifiques, donc on reste très, très prudent. On ne fonce pas tête baissée dès qu'un commercial nous présente quelque chose.
Donc l'imagerie 3D, ça a changé votre vie de dentiste.
Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver prochainement qui pourrait changer un peu la donne ? Que vous avez une info de quelque chose qui est sur le point d'arriver ou...
Alors là, moi, je fais venir justement un chirurgien maxillofacial qui a travaillé sur l'intelligence artificielle par rapport à l'analyse des radiologies. Et le peu que j'en ai vu, c'est très, très intéressant. Parce que l'intelligence artificielle est capable d'analyser nos radios et de voir éventuellement des choses qu'on n'aurait pas vues initialement. Ceci dit, je mets un bémol parce que je reste quand même old school, entre guillemets. On perd un petit peu les connaissances et la clinique. Et du coup, l'expérience d'un radiologue... je ne sais pas si elle pourra être remplacée réellement par l'intelligence artificielle parce que la radio reste pour moi un examen complémentaire et non pas un examen de première intention. Ça ne devrait jamais l'être. Et parfois, l'expérience du radiologue qui va savoir cliniquement ce qu'il recherche ou ce qu'il soupçonne comme pathologie, ça aide aussi par l'examen à le diagnostiquer. Parce que si on fait un examen de première intention sans savoir ce qu'on cherche, ben souvent, des fois, on peut ne pas trouver du tout, en fait.
Donc, l'intelligence artificielle arrive. Vous dites, vous faites venir, c'est dans le cadre de votre asso ?
Oui, on va faire venir dans le cadre de nos associations, qui nous présente un petit peu son travail. Et c'est un chirurgien maxillofacial que je connais depuis des années et qui a une très grande expérience clinique. Donc, c'est très intéressant de voir comment il a conçu son outil et comment on va pouvoir l'utiliser.
Qu'est-ce que ça veut dire maxillofacial ?
Alors, ça, c'est le chirurgien maxillofacial, c'est quelqu'un qui a fait plutôt un cursus médical pur et qui est un chirurgien pur, voilà, et qui a pris la spécialité de la chirurgie maxillofaciale, c'est-à-dire de la tête, en fait, de la bouche, de tout ce qui est au niveau des maxillaires et de la face.
Ok. On voit de plus en plus des images de chirurgie très très fine. Vous savez, les petites choses qui va découper un raisin et recoudre le raisin par des robots. Est-ce qu'en dentisterie, c'est quelque chose dont on vous parle ? Est-ce que demain, vous pourriez être à votre bureau avec un casque vert à opérer quelqu'un à l'autre bout du monde ?
Pour l'instant, moi, j'en ai pas du tout entendu parler. Je pense que ce genre d'utilisation de robots est très intéressante pour des chirurgies très spécialisées, très complexes, où en fait il y a peu de chirurgiens qui sont capables de la faire. Donc c'est toujours important de développer la capacité à distance de ce chirurgien. Il faut savoir qu'en chirurgie ou en dentaire, on fait bien ce qu'on fait le plus souvent. Et sur ces types de chirurgies que j'ai vues faites notamment en neurochir, c'est parce que effectivement il y a peu d'interventions de ce type-là, et du coup, il y a peu de spécialistes qui ont l'habitude de faire très souvent ce type d'intervention. Et du coup, effectivement, c'est très intéressant de déporter la capacité d'un chirurgien.
Oui, il y a peut-être aussi besoin d'une précision quand on fait de la neurochirurgie.
Oui.
Parce que finalement, dentiste, il y a toujours un moment où on est dans une certaine... C'est marrant, mais même à la fin, ça, c'est presque de la force. Enfin, quand on arrache une dent, quand on... Je verrais mal un robot faire ça. Finalement, c'est la force de votre coude qui arrive à...
Oui, c'est la force. Il y a un peu de force. Il y a aussi de la technique. Il y a beaucoup de technique aussi, plus que de la force. Enfin, moi, je ne suis pas très forte. Hein. Je ne suis pas très musclée non plus. Mais il y a beaucoup de technique. L'extraction d'une dent, c'est tellement commun depuis la nuit des temps que ce n'est pas quelque chose qui demande une technicité technologique, en tout cas très importante.
Oui, enfin, en fait, c'est plutôt dans les à côté, dans les outils de diagnostic et de reconstruction qu'on va avoir de la tech. Ok,
ouais.
Bah, écoutez, très clair.
Sur les formations, on a parlé tout à l'heure effectivement d'un concours qui est stressant, même si les choses ont pas mal changé. Maintenant, il y a des admissions parallèles qui sont possibles. On a quand même le stress déjà de Parcoursup, où on n'est pas sûr d'avoir la place où on veut. Et ce qui se passait beaucoup à l'époque d'un numerus clausus très fort, c'est que des gens partaient à l'étranger, en Europe généralement, pour aller se former sur les métiers de médecin, de dentiste, etc. Et ensuite revenaient en France. Est-ce que c'est une pratique qui existe toujours ? Et quel est votre regard sur cette pratique ?
Alors, c'est une pratique qui existe toujours et je dirais même plus, qui est extrêmement plus importante qu'il y a quelques années. Parce que avec l'Europe, du coup, notre diplôme est européen, donc on peut aller se former où on veut. Il y a quelques pays qui ont développé des universités qu'on pourrait dire privées, en fait, où il n'y a pas de concours d'entrée, il n'y a pas d'exigence à l'entrée pour y aller. Il y a des pays comme la Roumanie, l'Espagne, le Portugal qui ont développé ce système privé. C'est quelque chose qui nous inquiète.
C'est-à-dire que tu payes ?
Oui.
Et tu as ta place ?
Oui.
D'accord.
Ça paye cher.
Tu payes cher, combien ?
Ça peut être 25 000 euros l'année.
Oui.
Donc on paye cher, on a sa place. Ça nous inquiète parce qu'on n'a pas forcément la garantie d'un niveau égal à ce qu'on a dans nos facultés françaises. En termes de chiffres, c'est très inquiétant puisque l'année dernière, l'Ordre des chirurgiens-dentistes a enregistré pour moitié des diplômes étrangers. On avait moitié diplôme français, moitié diplôme étranger. Et quand on parle de diplôme étranger, on ne parle pas d'étrangers forcément qui viennent en France parce que la France n'est absolument pas attractive pour les médecins et les dentistes de l'Europe. Enfin, je pense qu'ils sont beaucoup mieux chez eux, quel que soit le pays, puisqu'on est... On a des tarifs extrêmement bas en Europe, donc on n'est pas du tout attractif. Mais c'est des Français qui sont effectivement partis à l'étranger et qui reviennent s'installer en France. Donc effectivement, ça nous pose un énorme problème de niveau. D'un autre côté, le numerus clausus a tellement été fermé pendant des décennies qu'on est quand même dans une catastrophe démographique. Et ça, je pense que tout le monde le sait, qu'il manque énormément de médecins et de dentistes sur tout le territoire français. Donc ça a compensé ça. J'ai presque envie de dire que heureusement un peu qu'on a des dentistes étrangers, parce que là, ça serait vraiment désastreux absolument. Et ça compense un peu, donc je pense que ça arrange l'État. On pense que ça va augmenter, en fait. Il est fort possible, on n'a pas trop de vision sur l'avenir, mais on y travaille aussi pas mal à la caisse de retraite, puisque comme c'est une retraite par répartition, on est très inquiet sur le nombre de dentistes pratiquants et cotisants. On a plusieurs scénarios possibles, mais effectivement, on a le scénario qui est beaucoup plus de gens qui viennent de l'étranger que de gens formés en France, puisque là, on a beaucoup de mal en France à mettre les moyens sur la formation des cursus des professions médicales.
Ça veut dire qu'il y a des numerus clausus à l'entrée de la formation, mais il n'y en a pas pour s'inscrire dans la profession, c'est
non,
ça?
Exactement.
Et puis, dites-moi si je me trompe, mais former un médecin en France, ça coûte un bras parce que c'est gratuit pour le contribuable. Enfin, c'est gratuit pour le former. Donc, l'État va payer, vous, votre formation. Mais finalement, donc c'est évidemment que des gens très riches qui vont faire, qui vont se former en Roumanie à 25 000 euros l'année.
Ou qui s'endettent beaucoup.
Mais non, tu peux pas t'endetter à ce point-là. En fait, tu peux pas t'endetter.
C'est pas forcément des gens très riches. C'est des gens qui empruntent beaucoup aussi pour aller là-bas. C'est pas que des gens. C'est des gens qui sont relativement aisés, si tu veux, mais c'est pas des gens très riches.
Ah bah moi, je pense que c'est des gens très riches parce que si c'est 25 000 euros l'année et que tu as 8 ans à faire, si je calcule bien, ça fait 350 000 euros. Non, je rigole. Ça fait donc 200 000 euros. 200 000 euros, tu les empruntes pas pour faire des études.
Ça dépend des endroits. En Roumanie, c'est moins cher, par exemple.
Ah ouais.
Et la Roumanie est très
attractive. En tout cas, c'est quand même plutôt des gens aisés et qui reviennent gratuitement ensuite formés, mais avec évidemment un moins bon niveau, parce que je vois pas comment le niveau pourrait être aussi bon.
Oui, tout à fait. Alors,
c'est un sale calcul, quoi.
Voilà. Alors, dire que les études coûtent très cher en France pour les médecins et les dentistes, c'est la vision du ministère de l'Éducation nationale, évidemment. Et effectivement, ça coûte très cher. En revanche, ça serait bien de mettre en balance la vision du ministère de la Santé. Parce qu'à l'heure actuelle, on retire les étudiants, les internes, les externes, en médecine et en dentaire des hôpitaux. L'hôpital, il tourne plus du tout. C'est-à-dire que c'est quand même des gens qui ont une activité très productive à l'hôpital.
Expliquez-nous ça, l'internat.
L'internat.
On n'a pas parlé tout à l'heure.
Ouais, l'internat, c'est en médecine et en dentaire. Une fois qu'on a fini notre cursus, on a la possibilité de faire un autre concours qui nous entraîne vers un internat, c'est-à-dire pour se spécialiser encore plus. Et en dentaire, on a trois spécialités comme l'orthodontie, la chirurgie et la médecine bucco-dentaire. Et donc ça.
Vous l'avez fait ?
Non, moi j'ai pas fait d'internat parce que quand j'étais en fait, j'ai fini et l'internat commençait quand je finissais mes études, ça n'existait pas.
Ah, c'était pas en place déjà,
d'accord. C'était pas en place, mais ça l'a toujours été pour les médecins. Ça fait que les médecins sont quand même, et les dentistes peuvent être pendant 10-15 ans à l'hôpital en tant qu'étudiants.
Donc mais non rémunérés.
Si, alors en tant qu'interne, on est rémunéré, mais on est très faiblement
une
rémunéré.
Une broutille, quoi, en mode stagiaire voilà. Un peu. Mais par contre, vous êtes déjà très efficace. Et donc, à ce moment-là, ça compense un peu ça compense le prix des études. C'est ça que vous...
Bah, c'est-à-dire que oui, c'est plus que ça compense. C'est qu'aujourd'hui, plus d'internes et d'externes dans les hôpitaux, l'hôpital, il tourne pas.
D'accord. Oui, donc en plus, c'est vraiment pas si intéressant que ça d'avoir des médecins qui viennent de l'étranger...
Ah bah oui, ouais. Parce que c'est pas comme si on manquait pas terriblement de personnel à l'hôpital, je pense que ça, tout le monde le sait.
Tout à l'heure, sur ceux qui sont formés à l'étranger, vous disiez que finalement, la France n'était pas très attractive pour les dentistes européens parce que les tarifs étaient très chers. Or, on sait que les coûts de santé dentaire sont extrêmement importants et que certains refusent d'y aller pour des raisons financières. Donc c'est un peu paradoxal d'entendre ça. Vous pouvez nous en dire plus sur les tarifs ?
Oui, tout à fait. Ben, nous, en France, on a ce qu'on appelle la sécurité sociale. On est le seul pays d'Europe à avoir ce système-là. Et la sécurité sociale, ça veut dire que les praticiens sont conventionnés, donc signent un accord avec la sécurité sociale pour appliquer les tarifs qui ont été définis par la sécurité sociale. Ces tarifs ne sont pas ou très, très peu augmentés depuis des décennies. Donc, on arrive à des tarifs de soins relativement bas, voire certains soins qui sont même à perte. Et ça, là-dessus, c'est vrai qu'on est, ben, on est les plus bas d'Europe. Enfin, il n'y a pas de discussion possible. Même la consultation d'un généraliste, c'est la plus basse d'Europe. Même au niveau mondial, on est quand même très, très bas. Alors après, pourquoi ça coûte cher aux gens? Parce qu'il y a certains soins, et notamment les prothèses, qui ne sont pas remboursées en totalité par la Sécurité sociale. Il y a les implants. Il y a malheureusement, ce que j'ai envie de noter, c'est que tous les traitements parodontaux, enfin, tout ce qui touche la parodontite, ne sont
Qu'est-ce
pas...
Qu'est-ce que c'est ?
La maladie parodontale, c'est en fait la deuxième maladie de la bouche. Quand je dis la deuxième, c'est dans le temps. C'est-à-dire que tout le monde connaît la carie. C'est ce qu'on a quand on est jeune. Et au cours de notre vie, on va avoir un changement d'écosystème bactérien qui va faire qu'on va avoir des bactéries qui vont agir beaucoup plus sur la gencive et l'os jusqu'à la perte osseuse. Et c'est la première maladie au monde qui entraîne la perte des dents. Donc la maladie parodontale, c'est une maladie qui est très grave en termes de santé publique, puisque c'est celle qui entraîne le plus la perte des dents dans la vie de quelqu'un. Et celle-là, par exemple, n'est pas du tout prise en charge par la Sécurité sociale. Donc ça, effectivement, ça peut coûter très cher aux patients. Même si les tarifs appliqués ne sont pas forcément chers par rapport à ce qu'on parlait, par rapport aux actes qui sont menés. Mais c'est vrai que la Sécu a en plus a déremboursé encore une fois de plus les soins dentaires en octobre, puisqu'on est passé de 70% de remboursement à 60%, ce qui laisse en fait la part de remboursement de plus en plus importante aux complémentaires. Et c'est là que le bât blesse, parce que les complémentaires remboursent pas tellement plus le patient.
Oui, et les complémentaires, en plus, on sait tous que c'est un truc un peu chelou, ils gagnent beaucoup d'argent, ils organisent des courses de bateaux. Enfin, les complémentaires, on sait bien que c'est un business avant d'être quelque chose au service des gens.
Exactement. Et c'est nous, ça nous fait très, très peur. Parce que plus on voit la Sécurité sociale se désengager, plus on voit aussi le pouvoir des complémentaires. Il faut bien comprendre que la Sécurité sociale, nous, on doit répondre aux dentistes conseils de la Sécurité sociale qui sont habilités à nous contrôler, et je trouve ça normal. Mais plus les assureurs vont payer, plus ils vont demander à avoir autorité sur la façon dont on soigne les gens pour les contrôles. Et c'est pas tant les contrôles qui nous embêtent, c'est qu'ils vont avoir aussi autorité sur ce que l'on peut faire ou ce que l'on peut pas faire en fonction un peu de ce qui les arrange, eux, financièrement. Ils sont pas dans un intérêt de santé publique,
D'accord.
forcément.
Ça nous amène aux questions des salaires, de l'argent que vous gagnez, que vous dépensez. Peut-être faire un petit point là-dessus, Benoît.
Oui, justement, c'était le sujet que je voulais aborder. Avec ce que vous dites, avec la difficulté qu'on a vue de devenir dentiste, rassurez-nous, ça gagne quand même bien sa vie, un dentiste.
Ça gagne bien sa vie, effectivement, par rapport à la moyenne française. Ça gagne beaucoup, beaucoup moins bien sa vie qu'il y a 20 ans. Ça, c'est une évidence, puisque les tarifs n'ont pas vraiment augmenté. Par contre, les charges flambent. Flambe de par les matériaux, les technologies, etc. On a quand même, quand vous allez chez un dentiste, je crois que c'est entre 70 à 80% de charge un cabinet dentaire. Donc, ce que vous payez, il faut bien vous dire que ce n'est pas ce qui va dans la poche du dentiste, déjà. Et on fait partie forcément des professionnels de santé quand elles ont le plus de charges de très loin, parce qu'on a énormément de technologies, de consommables. Voilà, si vous allez chez un généraliste, il a un stéthoscope, un tensiomètre, et il n'a pas autant de matériel, pas autant de consommables que ce qu'on peut avoir. Donc oui, ça gagne bien sa vie, mais quand même, malgré tout, ce qu'on note, c'est que c'est beaucoup moins attractif qu'avant comme métier, donc c'est que ça gagne beaucoup moins.
Oui, et puis votre temps n'est pas extensible, donc vous pouvez de toute façon faire un nombre de rendez-vous donnés chaque semaine. Vous vous rendez compte qu'au fil du temps, vous gagnez de moins en moins bien votre vie quand même.
Ah oui, oui, le temps n'est pas extensible. Et puis, on a des métiers qui demandent beaucoup de concentration, qui sont physiques.
Et vous êtes debout.
Oui, c'est ça. On ne peut pas faire des heures sup. C'est à n'en plus finir. Je sais qu'on a une pression politique pour travailler plus, pour prendre plus. Enfin, c'est très fatigant comme métier. Et puis, il faut qu'on reste concentré. Moi, certains actes qui vont me demander de la concentration et de la technicité, je sais que je ne vais pas les mettre en fin de journée. Parce que j'ai peur de ne plus être tout à fait aussi opérationnel que le matin, par exemple.
Est-ce qu'on peut être un peu plus précis en termes de chiffres sur les revenus des dentistes ?
Alors, je vais essayer d'être un peu plus précise en rappelant que ce n'est pas des salariés. Donc, on va avoir un chiffre d'affaires qui souvent est communiqué par les journalistes, mais qui n'a aucun sens, puisque comme je vous disais, on peut être à 70, voire 80% de charges. Et après, nous, ce qu'on peut avoir comme chiffre, c'est celui de notre caisse de retraite qui va donner un revenu médian, et non pas moyen, qui va être aux alentours de 70 000 à 75 000, sachant que c'est un revenu...
Par mois
Non, à l'année.
À l'année.
Ça m'aimerait bien par mois. Sachant que ce n'est pas un salaire net non plus, puisque dedans, il y a la CSG, CRDS, et tout un tas de petites choses qui ne vont pas dans notre poche non plus. Donc, c'est juste pour donner une fourchette très, très large.
Bon, en tout cas, c'est vrai qu'on se rend compte pour un médecin, c'est pas délirant comme revenu.
Vu le nombre d'années d'études.
Il y a les centres dentaires qui ont ouvert un peu partout dans Paris ces 10 dernières années. Moi, je trouve que ça fait un peu peur. C'était un peu... Ça fait partie de ces espèces de lieux où on sait pas trop ce qui se passe dedans. Toujours des vitres opaques, il n'y a pas de nom de médecin sur les devantures. Ça semble un peu être la... Moi, je le perçois un peu de là où je suis, c'est peut-être une erreur, mais comme de la sous-médecine, c'est-à-dire qu'on vient dans un endroit qui est même plus représenté par quelqu'un, on prend rendez-vous avec un lieu et plus avec une personne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette mode ou cette nouveauté, parce que j'ai l'impression que ça n'existait pas avant.
Oui, alors ça, là, vous ouvrez un débat qui est... où on pourra en parler pendant des heures. Les centres dentaires, déjà, ça... C'est des associations de loi de 1901 qui sont un peu bancales parce qu'on sait très bien que c'est très commercial. C'est pas dirigé tout le temps et même peu souvent par des professionnels de santé, ce qui est un peu le problème.
C'est dirigé par qui ?
Ça peut être des financiers, ça peut être tout le monde qui peut
d'accord.
avoir...
Ça, des,
tout le monde.
Des entrepreneurs ?
Oui, donc, tout d'accord. le monde. On a à peu près tout, tout bord qui peuvent ouvrir des centres dentaires. Il y a une chose philosophique qui me gêne vraiment, c'est qu'en France, la santé n'était pas un commerce. Et je souhaiterais vraiment qu'on considère que la santé n'est pas un commerce. Que dès lors que vous avez des structures comme ça, où il y a des investisseurs, où il faut dégager des bénéfices, comme je vous ai dit, les tarifs en France ne sont pas non plus extensibles. Et à partir de là, dégager des bénéfices sur la santé... avec les tarifs qu'on a. Déjà, ça me paraît compliqué et peu probable. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ferment aussi. Hein. Ça ferme à tour de bras, les centres dentaires.
Oui, ça a ouvert. Il y en a plein qui ont ouvert et là, tout se ferme. Ouais.
Et puis, ça ne doit pas être l'objectif d'un soignant. Et pourquoi vous n'avez pas les dentistes d'afficher ? Tout simplement parce que ça tourne énormément. Il y a très peu de dentistes. Alors, ça dépend des centres dentaires. Hein. Nous avons des centres dentaires vertueux, par exemple les centres dentaires des mutualités ou municipaux. Mais tous les autres qui font de la publicité, qui se dirigent plus comme un commerce, la question, c'est comment ils dégagent autant de bénéfices et comment ils peuvent faire des retours sur les investissements.
On a parlé beaucoup de technicité, on a parlé beaucoup de salaire, de formation. Je voudrais qu'on revienne à des choses un peu plus primaires en termes de ressenti. Et Guillaume l'a dit dans son introduction, il y a peu de métiers qui font aussi peur que dentiste. Et je voudrais savoir, est-ce que déjà vous savez un peu d'où ça vient, cette peur du dentiste ? Est-ce que vous avez des anecdotes au quotidien de cette peur de dentiste matérialisée chez vos patients ?
Oui, alors, mais moi aussi j'ai peur du dentiste en fait. Pourquoi ?
Tous les matins, terreur devant la glace.
Oui, oui. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on soigne en bouche, donc la bouche, symboliquement, c'est quelque chose qui est fort dans l'inconscient de chaque personne. On pénètre à l'intérieur de l'enveloppe corporelle. On est vraiment à l'intérieur quand on rentre de la bouche. C'est quelque chose on sait que ça peut être douloureux parce que tout le monde a connu une douleur dentaire ou autre et donc on appréhende la douleur. C'est vrai que après, ça dépend, c'est générationnel. C'est pour ça qu'on mise beaucoup sur nos politiques de santé et ce qui a été décidé avec la nouvelle convention sur les enfants, pour les emmener très jeunes chez le dentiste, pour les habituer. Il y avait des générations, on les anesthésiait pas. Donc forcément, ils ont un traumatisme terrible.
La belle époque, ça.
Voilà.
Voilà.
Mais ça reste ancré, ce genre de traumatisme, de douleur. Et forcément, les gens ont peur et ça se comprend. Donc c'est pour ça qu'on essaie de changer radicalement, puisque nous, on est très orientés sur la prévention. On pense qu'on s'en sortira dans un système de santé si on évite la maladie plutôt que de la soigner. Et donc, on essaie de prendre les enfants très jeunes. On a des méthodes pour les prendre, justement, pour casser cette appréhension, parce que de toute façon, on va être obligé de rentrer en bouche et donc de rentrer dans l'intimité de la personne.
Est-ce que vous avez des anecdotes avec des patients ?
Ah oui, moi j'ai des patients qui ont été tellement traumatisés que je n'ai pas pu du tout rentrer ne serait-ce qu'un miroir en bouche. Et des fois, on est obligé de faire appel à des psychologues ou des hypnothérapeutes pour essayer, comme une phobie en fait. Il y a des gens qui sont phobiques, hein, donc je sais qu'on travaille de plus en plus avec l'hypnose pour vaincre cette phobie, mais il y a des gens, des fois, ça m'a arrivé très peu souvent, mais que je n'ai pas pu soigner.
Malgré des souffrances de leur côté, oui. Évidemment, parce que j'imagine que le phobique du dentiste qui se retrouve finalement chez vous, c'est qu'il est dans un état de horrible, et malgré tout, il va pas réussir à...
Ah, c'est le problème de la phobie, c'est-à-dire que c'est pas rationnel, on essaie de rassurer, etc. Moi, en général, quand je vois que quelqu'un a peur du dentiste, je vais pas rentrer brutalement comme ça, directement aux soins, et je vais essayer de dialoguer, et surtout... j'explique tout ce que je fais pour pas qu'il y ait... Parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, en fait, en bouche. Personne ne peut suivre en même temps ce qu'on fait. Donc déjà, expliquer et prévenir pour pas que la personne soit surprise aussi de ce qui se passe ou soit inquiète de ce qui se passe.
Alors moi, dans les anecdotes avec les dentistes, quand j'avais 7 ans, j'ai mordu ma dentiste. Est-ce que vous avez déjà été mordu par des patients ?
Oui, ça m'est arrivé. J'ai été mordu par des patients, mais alors de façon complètement inconsciente, en général, par réaction soit de peur ou d'appréhension subite, comme ça. Mais ça n'a jamais été très violent et ça m'amuse plutôt, en fait. et généralement, les patients sont très, très embêtés.
Moi, j'ai une autre question. Comme je suis un peu dans le rap, je pensais me faire poser une grids, c'est-à-dire des plaques en métal sur les dents en or, pour avoir un peu plus de street cred. Est-ce que ça, c'est recommandé, pas recommandé ? Les piercings à la langue aussi, tous ces trucs, on est pour ou contre ?
Alors, moi, je suis pour ne pas toucher aux dents si elles n'ont pas de problème. C'est-à-dire que moins on touche à une dent, mieux ça se passe dans l'avenir de cette dent. Parce que évidemment, plus on va essayer de la polir, de coller quelque chose de chimique dessus, n'importe quoi, de la toucher finalement, on va un peu l'abîmer. Donc, bon, après, voilà.
Pas terrible. Même le petit diamant quand on est dans le R&B.
On fait un trou dans la dent. Moi, j'aime pas qu'on touche aux dents, en fait. Si on peut ne pas y toucher. Quant au piercing sur la langue, alors là, pour le coup, je vais être très, très contre pour deux raisons majeures. C'est que, premièrement, on fait un trou dans la langue. Et comme je vous disais, la langue, c'est un milieu ultra bactérien. Donc, vous êtes en train de faire une porte d'entrée à votre organisme, à une tonne de bactéries qui sont dans la bouche avec des risques. Le risque le plus extrême, ça peut être une infection sur la valve du cœur. C'est-à-dire que les bactéries de la bouche vont aller se positionner sur la valve du cœur et là, c'est la réanimation assurée. Donc, il faut avoir quand même un problème sur cette valve pour que ça arrive. Mais souvent, on ne sait pas qu'on a un problème. Et on a déjà eu des cas comme ça, malheureusement. Même si c'est pas fréquent, ça peut arriver. Et donc, moi, je trouve que je préfère pas faire prendre de risques. Et en plus de ça, ce piercing sur la langue, la langue bouge et va faire des micro-traumatismes permanents sur les dents. Et pour le coup, ça, ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est qu'on peut avoir des petites fractures d'émail dues au piercing.
D'accord. Bon, donc, on ne recommande pas. Mais autre question, on a cette mode des facettes. Là, on a vu sur Snapchat et sur Instagram les influenceurs avec les petites dents de requin. Ou quand ils sont jeunes, ils se font quasiment tailler les dents pour se faire reposer des facettes. Est-ce que ça, c'est bien, c'est pas bien, ça aide pour manger ? C'est assez esthétique.
C'est une catastrophe. Ah. Enfin, c'est une catastrophe parce que là, vous me parlez de tailler les dents. C'est donc déjà toucher à une dent, c'est catastrophique. Surtout que ça ne repousse pas, enfin, ça ne se répare pas tout seul. Donc voilà, en plus, tout ce qui est collage, si c'est fait dans des mauvaises conditions, c'est-à-dire pas par des spécialistes... Et souvent, c'est fait à l'étranger dans des mauvaises conditions. Tout ce qui est collé se décolle. Donc, on a l'air un petit peu con quand ça se décolle, quand même. Et puis, nous, derrière, c'est très compliqué parce que si la dent a été très mal taillée, nous, on colle que sur l'émail, par exemple. Et si l'émail a été taillé, le collage devient très, très hasardeux. Donc, pour se faire un très, très beau sourire, moi, je préconise de ne pas toucher les dents, de faire un traitement orthodontique pour remettre justement les dents bien alignées, tout simplement, éventuellement de les éclaircir.
Et petit blanchiment.
Et on a un très très beau sourire sans avoir touché ses dents et en les ayant gardées saines.
Vous avez dû récupérer des cas comme ça qui revenaient de je sais pas où avec des dingueries dans la bouche.
Ouais. J'ai récupéré et des jeunes et c'est très dommageable. Et j'ai eu toujours mal au cœur des fois à être même obligée de dévitaliser des dents chez des jeunes parce que dévitaliser des dents, c'est donc enlever le nerf et donc la vitalité de la dent.
C'est comme un peu euthanasier un chaton pour un dentiste.
Voilà, c'est peut-être un peu fort, mais ça fait toujours... c'est embêtant.
Est-ce que chez le dentiste, il y a plus que chez les autres médecins de no-show ? No-show, c'est un terme qu'on utilise en restauration, notamment pour dire les gens qui ont réservé et qui ne viennent pas.
Je pense que dentiste et médecin, on est pareil. Ça, c'est un problème de société profond qu'il faut faire. Il faut vraiment que les gens comprennent, qu'on les éduque à ne pas... planter les... On est quand même dans un problème de démographie très critique. Faut aussi qu'ils prennent conscience que s'ils prennent une place et qu'ils viennent pas, ils prennent la place de gens qui attendent et qui ont besoin d'aller voir un praticien. Il faut qu'ils prennent conscience qu'on est, c'est aussi du temps perdu pour nous. Et franchement, en ce moment, on n'a pas de temps à perdre. On a trop de choses à faire. Et ça, c'est aussi en tant qu'entrepreneur de l'argent qui est perdu. Enfin.
Bien sûr. Et c'est commun. C'est combien de pourcents à peu près?
Je sais pas du tout. Ça dépend des régions, parce que si vous êtes en province et que vous avez mis 6 mois ou plus à avoir un rendez-vous chez le dentiste en général, vous l'oubliez moins, vous le ratez beaucoup moins.
En province, c'est 6 mois un rendez-vous potentiellement.
Ça dépend, dans certaines régions, ça peut être 6 mois, voire pas du tout. Enfin, il y a des régions où les dentistes ne peuvent plus du tout prendre de nouveaux patients.
Vous avez des gens qui viennent de province chez vous, qui prennent genre le train pour venir se faire soigner les dents chez vous ?
Énormément.
D'accord.
De plus en plus, okay. Chaque année. Et là, enfin, chaque semaine, j'ai eu des gens qui arrivent de Cherbourg. Cette semaine, j'ai une patiente qui est venue de Cherbourg, par hasard chez moi, même pas sur conseil. J'ai des gens qui viennent d'Annecy, enfin de la région en tout cas. J'ai des gens qui viennent de plus en plus que je n'avais pas il y a 10 ans, ça c'est clair. D'Amiens, de plein de régions. Et je suis très surprise de voir que les gens prennent une journée pour faire l'aller-retour, souvent dans la journée.
Et oui. Ils ne vont pas en plus dormir à Paris au prix des hôtels.
Ouais.
Ok, donc ça fait un peu flipper. Ça fait un peu flipper de se dire qu'en plus, à un moment, vous n'aurez plus de place dans votre carnet d'adresse. S'il n'y a pas des nouveaux dentistes qui sont là. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que vous aimeriez dire, et on finira sur des petits conseils pour nos auditeurs pour prendre soin de ses dents et pour devenir dentiste éventuellement.
Oui, je pourrais parler de l'image, effectivement, vous avez parlé au début du dentiste. Il ne faut pas oublier que le dentiste est un soignant, que généralement, il a fait ça vraiment par vocation. C'est très rare d'arriver à ce genre de métier sans vocation, sans avoir... en priorité, l'assistance à son prochain, et que c'est pas forcément l'image qu'on peut avoir publique du dentiste. C'est des gens qui aiment soigner, qui s'occupent des patients, qui prennent en charge leurs douleurs, qui sont forcément à leur écoute, et que j'aimerais qu'on voit un petit peu plus les dentistes sous cet angle-là.
Et bien sûr, la peur, elle est irrationnelle et elle est presque pop culturelle, mais on a bien compris que les dentistes sont des gens passionnés et bienveillants. Et de toute façon, un passage chez le dentiste soulage beaucoup plus que ne fait mal et peur au final. En tout cas, je trouve que vous représentez très très bien cette profession. C'était super de discuter avec vous.
Je vous remercie beaucoup.
Des petits conseils pour nos auditeurs. Alors, ceux qui veulent devenir dentistes, je pense que là, on a beaucoup parlé. La passion, l'empathie, le courage et l'acharnement au travail. Et pour prendre soin de ses dents au quotidien, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, par exemple ? Est-ce qu'il existerait un outil qu'on pourrait frotter contre les dents matin et soir pour les nettoyer, par exemple ? Je ne sais pas, hein, j'invente, hein, mais...
Alors, moi, je suis très orientée sur la prévention. J'aurais 2 conseils majeurs à donner. Le premier, c'est ayez un praticien en qui vous avez confiance et vraiment soyez fidèle, parce que c'est très difficile pour nous de voir des gens en urgence qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas leur dossier médical, on ne connaît pas leur antécédent, c'est pas ce qu'ils ont en bouche, on ne connaît pas leur seuil de douleur, on ne connaît rien. D'être suivi régulièrement par la même personne, c'est très important, ça change complètement le futur de la santé bucco-dentaire.
Donc tous les 6 mois, un petit détartrage pour faire un point
Tous les ans, en général, ça serait déjà pas mal. Évidemment, de choisir quelqu'un de confiance, mais en tout cas, de ne pas faire du nomadisme médical, ce qui rend infernal pour nous le suivi des patients, voire impossible. Donc d'aller évidemment régulièrement chez le dentiste, parce que vaut mieux prévenir que guérir, parce que généralement quand on a mal ou quand il se passe que c'est un peu trop tard pour nous, il y a des choses qu'on pourrait faire. Je pense que si tout le monde allait chez le dentiste, on n'aurait pas autant de problèmes bucco-dentaires en France, ça c'est évident. Et le deuxième conseil, je vous conseillerais évidemment de vous laver les dents, mais le plus important c'est l'alimentation. Et ça, on en parle très très peu en France. D'ailleurs, dans le monde, on en parle très très peu. Évidemment, l'hygiène bucco-dentaire, mais l'alimentation, le sucre, faut jamais oublier que le sucre est quand même la première cause de problèmes bucco-dentaires et qu'on a une société aujourd'hui qui évolue beaucoup vers une alimentation industrielle et très sucrée et que ça dégrade l'état de notre bouche.
Et on voit fleurir pas mal sur Internet des formations pour apprendre à se brosser les dents. Parce qu'on dit qu'on se brosse mal les dents. Qu'est-ce que vous pensez de ces formations-là ?
Il y a des formations pour apprendre. Alors là, Benoît nous amène une information incroyable. Donc juste par rapport au sucre, hein, je rappelle que le podcast est sponsorisé par Kinder. Donc c'est aussi des conseils qu'il faut remettre en perspective. Non, c'est une blague, ça, bien sûr. Donc il y a des formations pour se brosser les dents. Je veux bien que tu nous en dises un peu plus là-dessus.
Ça se développe de plus en plus, des formations en ligne et qui peuvent être en physique pour apprendre à se brosser les dents sous prétexte qu'on se brosse mal les dents. Et on sait des formations qui peuvent être à jusqu'à une centaine d'euros sans difficulté. On n'est pas loin d'aller prendre un CPF pour le faire, quoi. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'en pense que tout simplement, si vous allez chez votre dentiste régulièrement, il vous expliquera comment se brosser les dents. Il n'y a pas besoin de payer une formation. Et en plus, ce qui est bien, c'est que sur le fauteuil du dentiste, on pourra même vous montrer en direct comment vous brosser les dents et vous accompagner un peu dans le bon geste à faire pour justement à la fois bien se brosser les dents sans abîmer non plus sa gencive parce qu'on y va trop fort ou etc. Voilà. Et puis encore une fois, se brosser les dents, c'est bien. Bien manger, c'est encore beaucoup mieux.
Donc ouais, on mange bien, pas trop de sucre. En plus, ça, c'est bon pour la santé. Moi, je vous fais un petit retour. J'ai arrêté le grignotage de sucre depuis un mois. J'ai beaucoup plus d'énergie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur notre fauteuil. C'était vraiment, c'était vraiment passionnant. À bientôt. À bientôt, parce que on se reverra au cabinet sûrement. Vous qui nous écoutez, si vous avez des questions sur les formations, les métiers ou l'orientation, n'hésitez pas à écrire à Benoît sur c'estpasunmétier.fr. C'est pas un métier est un podcast EVL Prod, production Benoît Lachant, réalisation Benjamin Septemours, direction de production Paloma Sterzati. Dernière chose, mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, c'est vraiment important, et puis brossez-vous les dents deux fois par jour et mangez moins de sucre. Merci à tous, à bientôt.
Merci Guillaume.
Merci beaucoup.
Fabien.